Bonjour, bienvenue dans ce groupe de partage sur la non-dualité, sur les enseignements qui nous parlent de l'unité que nous formons tous ensemble, l'unité de laquelle nous provenons, ou le sentiment que nous sommes tous reliés ou que tout est relié, absolument tout. Nous sommes le dimanche de la Pentecôte, le 27 mai 2012. Voilà, et puis tout à l'heure, Sylvain disait, c'est le dimanche où l'Esprit descend sur les apôtres. Voilà, donc c'est une très belle occasion de se réunir dans cet esprit, justement. Alors, je vais commencer avec un petit son de cloche, juste de manière à ce que nous puissions commencer par un petit moment de présence partagée. Merci. Voilà, et puis j'en profite pour saluer, accueillir les nombreux frères et sœurs qui nous écoutent chaque semaine à travers l'enregistrement audio de ces partages et qui font que le groupe est bien plus grand qu'il n'y paraît. Voilà, alors je vais introduire le groupe en quelques phrases, quelques concepts, un petit peu de théorie, mais en vérité basé essentiellement sur des ressentis, hein, tout ça. Et puis ensuite, nous pourrons librement partager nos expériences de la vie quotidienne ou nos ressentis, quels qu'ils soient. De manière à fournir des occasions de mettre de plus en plus de lumière sur nos vies, sur nos expériences, sur nos ressentis, ou simplement partager la lumière que nous vivons déjà dans certaines expériences pour la étendre cette lumière, hein, pour la faire grandir, la laisser rayonner de plus en plus à travers nous. Donc, dans cet après-midi, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de schéma directeur. Personnellement, je me réjouis de n'avoir pas de programme à faire. Et après cette courte introduction, il s'agira de laisser les choses se dire ou se faire en fonction de si c'est juste, si c'est ressenti comme étant opportun à ce moment-là. Et donc, je vais citer 5 phrases qui sont issues d'un cours en miracle, qui m'aident à lâcher le contrôle, à laisser les choses se faire et à devenir, d'une certaine manière, le porte-parole d'une voix qui n'est pas forcément, qui n'est pas cérébrale, qui n'est pas issue de ma réflexion, mais qui veut s'exprimer, qui s'exprime à travers moi quand je prends la parole. Et ces 5 phrases, elles disent ceci: je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Alors, il y a beaucoup à dire sur ces phrases, on en parlera peut-être, sûrement. Mais avant tout, il s'agit de faire confiance. Et nous pouvons nous détendre, et dans cette détente, la vérité que nous portons tous peut s'exprimer plus facilement. plus facilement que lorsque nous cherchons ou intellectualisons les choses ou nous voulons fournir une parole cohérente issue de la réflexion. Donc bienvenue à l'Esprit aujourd'hui, celui que nous portons tous, celui qu'un cours en miracle appelle le Saint-Esprit, qui veut dire simplement l'Esprit vrai, l'Esprit pur, hein, celui qui n'est pas intellectuel, et celui que nous joignons aujourd'hui dans ce groupe, que nous joignons à ceux des autres présents et à ceux des frères et sœurs qui écoutent en ce moment. Voilà. Alors, on peut aborder un certain nombre de sujets aujourd'hui. Il y a quelques lignes directrices que j'ai nommées, citées, mais en vérité, il n'y a rien d'obligatoire. Hein, c'est juste des propositions, des possibilités. Par exemple, il n'y a que l'amour ou la peur, ou le sens du mot Dieu dans la non-dualité, ou ce que je vois du monde est un reflet de mes pensées, ou la nature du voile de séparation, ou apprivoiser l'ego et le remettre à notre service. Ou à quoi sert le scénario de nos vies sur Terre? Ça, c'est quelques phrases parmi les quelques autres que j'ai été guidé à écrire pour donner des points de départ, si c'est nécessaire, à nos partages. Et un des points de départ que je cite souvent, c'est une phrase qui contient seulement deux mots, qui est censé résumer toute la vérité. La vérité, c'est vraiment tout ce qui existe réellement, qui était cité par Jésus souvent il y a 2000 ans, et qui dit simplement « Dieu est ». Dieu n'étant pas le nom issu des religions dogmatiques qui placerait Dieu à l'extérieur ou comme une entité pourvue de caractéristiques égotiques, hein, comme la vengeance, la jalousie, des choses comme ça. Dieu, dans ce sens-là, c'est tout ce qui est, toute l'existence, et on peut librement remplacer ce mot par d'autres si ce mot est trop chargé pour vous. L'univers, la plus haute forme d'amour possible, voilà. Il y a beaucoup de mots intuitifs qui peuvent désigner la totalité de l'existence dans laquelle nous sommes inclus, hein, qui ne nous exclut pas, puisque dans l'unité, il y a Dieu, et nous sommes dans l'unité, nous sommes aussi dans Dieu, ou nous sommes Dieu. Donc parfois, c'est un peu difficile à entendre ou à comprendre, mais nous parlons bien d'un autre niveau de perception que le niveau de nos vies humaines, qui voit les choses plutôt morcelées, divisées, séparées, et met souvent Dieu ou d'autres êtres à l'extérieur de notre perception. Tout ça, c'est parfaitement compris, accueilli, et il y a réellement ces deux niveaux de perception, et notre tâche en tant qu'humain, c'est pouvoir trouver le chemin pour aller de l'un vers l'autre, d'un niveau de perception qui voit les choses comme séparées les unes des autres, et les êtres aussi, et à un niveau de perception où, assurément, tout est relié, rien n'est séparé de rien, et tout interagit avec tout. Et c'est le niveau de l'unité. Donc lorsque nous disons Dieu est, ça résume tout. Dieu est aussi tout ce qui est dans cette unité-là. Donc il va de soi que Dieu ne s'oppose à rien étant tout ce qui est, puisque le faisant, il s'opposerait à lui-même. Et si Dieu ne s'oppose à rien, Dieu est pur accueil. Dieu accueille tout, puisqu'il n'est en opposition avec rien. Quoi que ce soit qui se passe est accueilli par Dieu. Comme disait un enseignant, Dieu ne connaît qu'un seul mot, c'est d'accord. Tu veux faire cette expérience? D'accord. Tu veux en faire une autre? D'accord aussi. Tu veux créer des guerres? D'accord. Tu veux aimer? Oui, ok. Tout ça, c'est infiniment accueilli, respecté, aimé. Puisque nous sommes venus faire des expériences dans un monde dans lequel les choses sont apparemment divisées, mais dans un monde aussi dans lequel il y a du jugement, c'est-à-dire que certaines choses sont classées comme étant le bien et d'autres choses sont classées comme étant le mal, ou dans mon esprit, il y a des cases, et je dis je suis d'accord avec ça, pas d'accord avec ça. C'est le monde de la dualité qui n'est pas jugé, qui a aussi son sens, et en même temps, c'est parce que nous sommes des êtres divins issus de cette unité dont je viens de parler. Nous avons aussi choisi de fabriquer un monde non divin, non issu des lois divines, dans lequel il y aurait un opposé à l'amour, qui serait dans notre monde la peur. Dans lequel il y aurait le mal en opposition au bien, dans lequel il y aurait le jugement en opposition à l'accueil. Donc c'est un monde qui va par paire. Et en tant qu'être divin, nous avons à un moment de notre expérience posé la question suivante: que seraient les choses si elles n'étaient pas ce qu'elles sont? C'est-à-dire que si nous n'étions pas dans l'unité, si nous n'étions pas des expressions de Dieu, que seraient les choses? Et parce que l'unité n'est pas morcelable, parce que l'unité est une à jamais, qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace, alors nous avons rêvé de ce monde de dualité. Nous avons imaginé qu'il était possible. Et parce que nous avons un pouvoir qui est hors de notre perception humaine, de concevoir même, alors nous avons fabriqué ce monde en lui donnant des aspects très puissants de réalité. Alors nous pouvons dire, c'est ma réalité, hein, tout ce que nous voyons, la matière, le sens du temps, le sens de l'espace, nos corps, la vie sur Terre, les planètes, les galaxies, tout ceci est notre réalité, mais c'est une réalité que nous avons imaginé pour répondre à la question: que serait un monde sans amour? Que serait un monde où il y a un opposé à l'amour? Et toute notre vie humaine sert à expérimenter la réponse à cette question. Et toute notre vie humaine sert aussi à refaire le chemin intérieur d'un monde de peur, d'un monde où des opposés existent, à une perception non entaché de peur, non entaché d'opposé, qui simplement reconnaît l'unité comme la seule chose existante par nous-mêmes. Et donc c'est une expérience, une aventure incroyable. Nous avons fabriqué une chambre noire et nous avons fermé la porte derrière nous et nous avons pris comme défi de retrouver la chambre blanche, de retrouver la lumière, de nous réveiller du rêve, de ce rêve de dualité. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui, hein, voilà sur quoi nous allons partager. Donc dans ce monde de dualité, nous avons pris un corps, nous avons aussi inventé l'ego qui veille à ce que la séparation se manifeste au jour le jour, hein, à la fois par ma perception que les choses, les corps, les objets, les planètes sont séparés les unes des autres. Si j'avais pas eu l'ego, cette pensée que la séparation peut exister, cette croyance, alors l'aventure n'aurait pas été possible. Donc on peut, d'une certaine manière, remercier l'ego, qui est juste notre pensée, hein, d'avoir pu donner à cette réalité des aspects aussi, aussi réels pour notre perception, pour notre conscience. Voilà, puis nous pouvons aussi parler des moments où, dans notre vie de dualité, dans notre vie d'opposé, il y a tout d'un coup un réveil à quelque chose, un appel à quelque chose, un instant de grâce, un instant où la vérité se révèle à moi, un instant d'extase, un instant de bonheur infini, un instant où il n'y a plus de temps, où il n'y a plus d'espace, où je me sens relié aux êtres et aux choses, et non dissocié. Voilà, tout ça c'est 100% pertinent, hein, dans notre partage d'aujourd'hui. Donc sentez-vous libre d'intervenir à tout moment, même lorsque quelqu'un est déjà en train de parler, pour poser une question, ou pour demander, ou pour dire quelque chose qui doit être dit à cet instant-là. J'ai parlé.
Dieu est tout ce qui est. À chaque groupe, avis est guidé soigneusement à redire cette phrase. Et Dieu, on ne connaît pas. Dieu, c'est la vie, c'est ce qui est. Et comme c'est infini, évidemment, on ne peut pas en parler. On ne peut rien dire. C'est infini, donc ça n'a pas de limite. On ne peut pas le saisir par des mots. Tout être est l'expression de ce qui est. Donc on peut dire, mais c'est une façon de parler, que tout être est Dieu. Et en même temps, quand on dit tout être, c'est pas ce qu'on voit. Une chaise, un oiseau, un frère, une sœur, un extraterrestre, c'est une forme temporaire qui va se terminer quelque part. Donc on peut dire qu'elle n'existe pas. Ce qui est réel, comme dit le courant miracle dans sa courte introduction, rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Apparemment, je suis en train de tenir un micro, je dis je suis en train de tenir un micro, c'est un corps masculin qui parle. Ce corps va se terminer tôt ou tard, donc il n'existe pas. Comme disait tout à l'heure Avi, évidemment l'illusion est bien faite, ça semble vraiment exister. Et très souvent, d'ailleurs, les uns les autres, on dit souvent, c'est pas intéressant votre histoire de monde qui n'est pas réel, en attendant, moi ma réalité elle est bien réelle, et si je me cogne contre un mur, ça me fait mal, c'est ma réalité. Voilà. Et oui, bien sûr, on a choisi cette expérience, on a tout fait pour essayer d'imaginer, de rendre réel ce qui n'existe pas. C'est pour ça que Jésus, dans le courant miracle et dans d'autres enseignements, insiste bien en disant « Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, le monde n'est pas réel, il n'existe pas. » Et on peut jamais insister assez là-dessus, que cela vous plaise ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi c'est si important? Parce que si je donne une réalité inconsciente au monde, qui est fini, aux finitudes, c'est-à-dire à un corps, à un problème qui apparaît sur quelqu'un ou sur moi-même, je suis créateur, puisqu'il n'y a que Dieu. Et donc, ça dit oui, oui au problème, oui à la limite. Et donc, indéfiniment, je perpétue la limite. Et le problème est l'illusion de la souffrance, de la séparation, qui semble bien réelle. C'est quand même sacrément bien fait. C'est pour ça que ça fait des millénaires et des millénaires qu'on rame avec ça, qu'on se réincarne avec toujours ces questions, non duelles. Et pendant très longtemps, tellement l'expérience était bien faite, a été magnifiquement jouée, on a été piégé là-dedans. Et même quand on se réincarnait, on jouait un jeu d'oubli. Et on se réincarnait, et puis on se réincarnait, et on devenait les uns les autres, des gens qui ont été connus plus tard comme des saints, etc. Des gens, alors on dit c'est formidable, Saint François d'Assise, Ignace de Loyola, François de Sales, et, etc. Et Saint Augustin, aimer, fait ce que veut, etc. Et on disait c'est formidable. Et puis quand on va regarder soigneusement, je vous invite d'ailleurs à aller sur Wikipédia, c'est très facile, vous voyez des résumés, vous allez voir qu'il y avait des vœux de pauvreté et de chasteté. C'est-à-dire des projections dans le futur, et il y avait des sensations d'être pécheur, ces sensations d'aller sauver des lieux saints, d'aller donc, il y a eu les croisades, et puis ensuite après, par exemple, Ignace de Loyola, avec ses compagnons qui vibraient d'amour, absolument, c'était superbe. Ils avaient un amour entre eux fantastique. Il a commencé en 1535, sur la colline de Montmartre, sa compagnie de Jésus, là, avec 6 compagnons, ils étaient 7, ensuite il y en a 2, et ensuite 3 qui sont revenus plus tard. Ça fait un boulot formidable, bien. Mais il y avait cette notion d'aller en Palestine, d'aller sauver les lieux saints, et puis d'aller convertir les musulmans et les autres. Hein. C'est une erreur. Et c'est des saints qui ont fait cette erreur. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Leur rôle était parfait. Simplement, nous sommes dans une époque clé maintenant où on se réveille et c'est fini. Et ces rôles qui ont été joués par le passé, c'est nous. C'est nous et on avance. Donc, bien sûr, on va se servir des énergies anciennes. On va se servir de tout l'amour incroyable qui a été vécu. Partout, dans toutes les religions, dans tous les groupes, partout, il y a eu des expressions d'amour magnifiques. Seulement, maintenant, on n'est pas dupes. Et on ne prend pas tout dans le même sac. Qu'est-ce qui se passe actuellement, maintenant, dans notre réveil? C'est qu'on fait vraiment le tri entre le vrai et le faux. Ce qui était déjà annoncé partout. La parabole du bon grain et de l'ivraie dans les évangiles, c'est ça. L'épée de Michael qui tranche, cette épée, elle tranche entre le vrai et le faux. Mais c'est fondamental. Parce que comme nous sommes créateurs, eh bien, si on ne tranche pas entre le vrai et le faux, on n'arrête pas de mélanger le vrai et le faux. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça conduit à quoi? Au conflit, tout est bloqué, on n'avance pas, on a des relations difficiles, on a apparemment des ressentis de manque, de jalousie, de panique, de peur, de culpabilité, de vieillissement, de maladie. Comme dit le courant miracle, la maladie est une défense contre la vérité. C'est très fort, moi je travaille là-dessus énormément, comme tous mes frères et sœurs, et on travaille tous là-dessus. C'est quand même pas évident. Au milieu de ce monde duel qu'on a imaginé, qu'on a fabriqué pour essayer de s'amuser à un jeu magnifiquement, puissamment joué, mais qui est impossible. Qui est totalement impossible. Pour ça, le courant miracle nous dit, par exemple, vous rêvez d'exil, c'est-à-dire vous rêvez que vous êtes en exil, vous êtes parti de chez vous, alors que vous êtes en sécurité à la maison. Et on ne peut pas ne pas être en sécurité à la maison, on ne peut pas ne pas être qui nous sommes. Dieu est. Et il n'y a rien d'autre. Mais il n'y a rien d'autre. Donc forcément, celui qui parle, qui ne parle pas, qui assassine l'autre, qui fait je ne sais pas quoi dans ce monde duel qui avait des apparences de séparation, c'est une expression imaginée par un seul esprit. Par l'esprit de Dieu, comme dit le grand miracle, the mind of God, l'esprit de Dieu. Alors, bien sûr, ce sont des mots duels. Bien sûr, on est dans un monde de dualité. Donc, tous les groupes, tout ce qui se passe, ce groupe, par exemple, ici, vous qui écoutez votre ordinateur, tout ça, ce sont des instruments séparés, ça n'existe pas, mais c'est utilisé par l'esprit. Dans un seul but qui est le réveil, qui est le rappel de qui nous sommes. Et c'est le seul but de l'incarnation, c'est nous rappeler qui nous sommes. Toutes les relations, quelles qu'elles soient, tous les systèmes, tout ce qu'on vit, toutes les expériences n'ont qu'un seul but, nous rappeler qui nous sommes. Alors on va dire, mais comment je vais faire? Alors, mais comment je vais faire? Moi, je ne sais pas comment je vais agir. Effectivement, tu ne sais pas, bien sûr. Avec, de l'intérieur de ce système de pensée séparé, le système de l'ego, je ne sais pas comment m'en sortir. Puisque je crois à la séparation, j'ai joué cette expérience de séparation qui est fausse, qui est impossible. Il faut donc quelque chose d'extérieur à ce système de croyance dans lequel je me suis fourvoyé, dans lequel j'ai plongé. C'est comme si j'ai plongé dans un labyrinthe et puis j'ai jeté la clé et puis ça y est, je suis prisonnier dedans. Apparemment, il n'y a pas de labyrinthe, mais je me suis imaginé à en imaginer un. Et donc, je suis dedans, ainsi que mes frères et sœurs. Ça a toujours été comme ça, mais il y a toujours eu la lumière quelque part. Et la lumière est en chacun. Même au plus sombre de l'histoire, en chaque être est la lumière. Bien sûr, dans les temps anciens, il y avait des initiés. C'était soigneusement dans le plan divin. La masse n'avait pas accès à ça. Et c'est pour ça que c'était caché, parce que c'était trop fort pour les gens, donc c'était immédiatement détruit. Il fallait donc des sociétés apparemment secrètes. C'était pas parce qu'il fallait cacher les choses, c'est parce que les autres n'étaient pas prêts à le recevoir. Et donc il fallait que ça soit protégé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est encore le cas, évidemment. C'est vrai qu'on ne va pas dire n'importe quoi. Néanmoins, ce qui est important, ce n'est pas d'aller convertir les autres, parce que si j'essaie de convertir les autres, j'ai perdu le message. Parce que le message, ce n'est pas que les autres doivent être convertis, le message, c'est qui sont les autres. Et qui suis-je moi-même? Et comme Dieu est tout ce qui est, les autres sont Dieu et moi je suis Dieu aussi. Voilà, c'est le message. C'est ce que disait Jésus il y a 2000 ans, le royaume est en vous, n'allez pas le chercher ailleurs. Alors on va dire, oui, mais il y avait le temple. Et puis lui considérait que le temple de Jérusalem, c'était un lieu sacré. Tout à fait, c'est un instrument qui est utilisé, qui est un lieu sacré où les gens peuvent venir se recueillir. C'est pour ça qu'il était en colère quand il a vu tous les marchandages qu'il y avait dans ce temple. Mais en soi, on n'a pas besoin d'aller dans un temple, dans une église, dans un lieu précis, dans un séminaire, dans un groupe. On n'a pas besoin de lire un livre, puisqu'on est déjà ce que nous cherchons, ou disons ce qu'on pense chercher. On est à la maison. Dieu est tout ce qui est. C'est fondamental, c'est le message non duel. C'est pour ça que le cours en miracle va nous dire, par exemple, tout ce que vous avez à faire, c'est accepter le fait que tout est un, pour vous-même. On appelle ça, dans le cours, l'expiation. C'est le mot anglais atonement, at-one-ment. C'est tout ce qui est fait pour être un. Et donc c'est très concret. Et il n'y a pas deux voies. Dieu est tout ce qui est, c'est tout. La vie est la vie. Si on est là, sur cette planète, dans une galaxie, au milieu de milliards d'autres galaxies, ça vient d'où ça? Ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est imaginé, mais c'est remarquablement imaginé, c'est magnifique, ok. Et puis on a choisi une expérience terrestre là, 7 milliards, on est venu en pleine connaissance de cause. Et j'insiste bien quand je dis en pleine connaissance de cause, il ne peut pas en être autrement parce que Dieu est tout ce qui est. Donc il n'y a pas d'erreur au départ. Est-ce qu'il peut y avoir une erreur dans Dieu, dans la vie? Non, puisque cela est. C'est hors du temps et de l'espace, c'est perfection absolue. C'est illimité. Donc forcément, obligatoirement, et c'est d'une logique extrême, il n'y a pas d'erreur. Donc personne ne fait une erreur. Tout le monde, chacun d'entre nous, je parle des 7 milliards, y compris ceux qu'on appelle les méchants là, hein, chacun a choisi un rôle parfait en fonction d'une pièce jouée par l'ensemble. Et pourquoi est-ce que c'est en train de changer pour la première fois sur cette planète d'une manière radicale? Pourquoi est-ce que des bases maintenant ont vraiment été posées? À cause d'une expression d'amour, à cause d'une préparation, soigneusement guidée par l'esprit depuis l'origine des temps. C'est pour ça que cette période que nous vivons en ce moment est fondamentale, a été, disons, prévue, vue dans un temps qui n'existe pas, qui se passe maintenant. Ça fait partie d'un jeu formidable d'éveil. Alors on dit, mais pourquoi ça semble prendre si longtemps? Et parce qu'il y a un paradoxe formidable dans cette affaire. Il y a, en même temps, une puissance d'imagination totale et un jeu qui est décidé, où on dit on va s'amuser à oublier qui on est. Mais c'est tellement bien fait qu'on semble oublier éternellement, puisqu'on a cette puissance qui n'a pas de limite. Et donc on peut sembler être perdu à jamais, là, dans cet oubli. Eh bien non, parce que, justement, c'est imaginé, donc c'est impossible. Et donc l'oubli lui-même n'existe pas. C'est vraiment ça. Donc commencez à vraiment voir pourquoi il devient si important de vraiment considérer que le monde n'existe pas, que l'oubli n'existe pas, que le manque n'existe pas, que la souffrance n'existe pas, que la peur n'existe pas et que la culpabilité n'existe pas, ça devient fondamental. Ça peut nous aider. Si c'est trop pour vous, ou si c'est, ça peut être aussi trop pour moi à certains moments, très bien, on met ça de côté. Seulement, quelque part, on ne ferme plus la porte. On ne dit plus « Ah non, ça c'est des bêtises », on dit « Je ne comprends pas, ça me paraît un peu fou, mais je vais quand même regarder ». Et ça, c'est fondamental. Parce que qui nous sommes n'exclut rien. Et donc, quand on commence à dire « Bon, ok, je ne ferme pas la porte, je ne comprends pas, ça me fait peur, etc., j'ai l'impression que c'est trop difficile, ok, très bien. » Mais je décide d'honorer tout ce qui est, Dieu et tout ce qui est. Cette vie-là qui est devant mes yeux, que je côtoie, qui est moi-même, est-ce que je lui dis oui? Et là, je viens de dire, de prononcer le mot oui. Et ce mot oui, il est fondamental. C'est ce que le cours en miracle appelle la bonne volonté. Et c'est, il nous est dit que c'est la seule chose dont l'esprit a besoin. L'esprit, c'est nous. Mais pour sortir de cette prison qu'on s'est soigneusement fabriquée, qui paraît absolument à toute épreuve, dont on semble pas pouvoir sortir, il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les cris de souffrance, les cris de désespoir, il y a droite et à gauche dans des situations difficiles, on se cogne la tête contre les murs, alors qu'il n'y a pas de mur. Mais évidemment, on a imaginé des murs. Comment on va faire? Par le lâcher prise. Eh oui, le lâcher prise de mes croyances. Cet égo là, cette séparation, ok, d'accord. Ok, j'ai choisi ce jeu-là, donc je commence par l'accueillir. Et la première des choses, c'est accueillir mon incarnation, accueillir ce jeu de séparation, qui est impossible. Mais bravo, on a joué ensemble et on continue de jouer ensemble, bravo. Donc j'ai une reconnaissance totale pour les 7 milliards que nous sommes ici, sur cette planète. Et c'est ça le pardon. C'est-à-dire, je dis, on commence par dire merci à chacun d'entre nous. C'est un merci d'amour, c'est-à-dire on joue un rôle parfait. À l'origine, derrière, en amont de toute chose, à chaque fois en pensée racine, il n'y a que l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour et nous sommes tous amour. Donc la pensée racine, c'est toujours une pensée d'amour. Même dans une guerre, même dans des attaques, dans des violences, hein, dans des ripostes, des jugements, des jalousies, des meurtres, il y a toujours à la racine, c'est de l'amour. C'est pour ça que le cours en miracle nous dit, lorsque vous ne pouvez pas faire comme le Saint-Esprit qui voit l'amour partout, en toute chose, quand ça vous paraît impossible, au lieu de voir l'amour, vous ne pouvez pas très bien. Mais vous pouvez vous ouvrir à avoir un appel à l'amour. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'amour. Et donc c'est l'amour qui appelle. Et seul l'amour peut répondre à son propre appel. Donc je commence à me dire, mais tous mes frères et sœurs, tous ceux qui sont là à justifier les guerres, justifier les prises de pouvoir, enfin tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, je commence par les accueillir. Je vois un appel à l'amour. Ou du moins, je demande à l'esprit de me montrer cet appel à l'amour. C'est très pratique. C'est très pratique. C'est très pratique. Bien sûr, ça passe par un lâcher prise. On respire tranquillement. On s'aperçoit qu'on est dans l'instant présent. Encore une fois, on ne vit jamais le passé et le futur. Donc c'est dans l'instant présent que ça se passe. Et donc ce qui apparaissait une montagne ou impossible devient simplement un oui dans l'instant présent. C'est ça, être comme un enfant. C'est dire, je ne sais pas. Mais Dieu est tout ce qui est. L'esprit s'occupe de tout. L'esprit s'occupe de ce jeu où il joue avec lui-même. Dans une liberté absolue, comme disait Avi tout à l'heure, oui, oui, tu veux des guerres, oui, tu veux de la séparation, oui. Et en même temps, je te guide. Et c'est impossible. Nous jouons ensemble. Mais qui sait, je joue avec moi-même. C'est pour ça que l'esprit, il est toujours en paix, il est souriant. Il n'y a pas de labyrinthe, il n'y a pas de prison. Et l'esprit se dit, mais c'est magnifiquement imaginé. Il dit, mais je suis en train de me réveiller moi-même au milieu d'une prison imaginée. Tout ça, évidemment, c'est des mots que je suis en train de dire. Ça parle à certains, ça ne parle pas à d'autres. C'est ok. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. J'observe que j'exprime quelque chose. Et j'observe que, comme dit le courant miracle, vous êtes mon sauveur. Comme dit le courant miracle, ton frère est ton sauveur. Pourquoi ? Parce qu'il te permet à chaque instant, et tu ne vis que l'instant présent, il te permet de rechoisir la façon dont tu veux le voir, ou la voir ta sœur, ou ton frère, ou le voir ton frère. Il n'est qu'amour. Et même si il t'en veut, même s'il te fait une queue de poisson sur la route, ou qui te fait quelque chose qui semble très désagréable, derrière c'est un appel à l'amour. Et derrière il te dit surtout, surtout, regarde bien qui je suis, n'oublie pas qui je suis. Je suis toi, Dieu est tout ce qui est. Je suis toi, tu es moi, Dieu est tout ce qui est. C'est pour ça que la volonté de Dieu, ma volonté, ta volonté, elles sont une, puisque nous sommes un. C'est ce que vivait Jésus il y a 2000 ans, c'est le Père et moi sommes un, le Père et moi sommes un, et en même temps, de moi-même je ne fais rien, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Et c'est toute la question qui revient tout le temps dans les groupes, dans toutes les questions que nous avons les uns les autres, c'est maintenant qu'est-ce que je fais ? Je laisse l'Esprit vivre ma vie. Même dans la Bible, il y a cette phrase extraordinaire, « Laisse-moi faire ce que je t'ai donné à faire, dit Dieu. »« Laisse-moi faire ce que je t'ai donné à faire. » »« Ah mais comment, je fais rien ?» Non, tu écoutes ton cœur, fais ce que tu sens et aie confiance. Et c'est dans les petites choses, parce que la vie, c'est que des petites choses. Même quelqu'un qui est un chef d'État, il fait que des petites choses. Il respire, il va manger, il va dormir, il convoque des ministres, et là, et puis il est comme quand il était un petit enfant. Hein. Il y a simplement des secondes et des heures et des mois et des années qui sont passées, mais c'est toujours le même. C'est toujours simple. Un être humain, c'est le même. Qu'il soit homme, femme, n'importe quel âge, c'est toujours un être qui est là et qui est dans l'instant présent. Et tout le décor s'effondre quand on regarde comme ça. Et là, on peut vraiment commencer à aimer vraiment. Qu'est-ce que c'est que aimer ? C'est accueillir. Et quand on accueille, il n'y a plus de jugement. Parce que si je juge, je n'accueille pas. Et donc, je commence à avoir des relations amoureuses avec tout. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Bien sûr, je suis tout le temps au travail. Bien sûr, je suis tout le temps en train de me laisser réaligner par l'esprit. Bien sûr. Mais nous sommes tous au boulot ici. Et c'est ce travail-là que nous faisons. C'est ce que faisait Jésus jusqu'au dernier jour. Comme j'ai souvent partagé ici, comme j'ai été surpris, émerveillé de voir comment il a travaillé jusqu'au dernier jour sur les jugements qu'il avait des uns des autres, sur le fait de surveiller ses pensées, c'est-à-dire de demander de l'aide au Père. Donc c'est pour ça qu'il priait. C'est au sens de se relier. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous relions. Et quand nous rassemblons dans les groupes, dans les relations, partout, on se relie. Et vous avez pu remarquer qu'on a les uns les autres de plus en plus de relations très simples, aussi bien à la caisse d'un supermarché que n'importe où dans un autobus ou ailleurs. Et vous avez remarqué comme de plus en plus, en souriant, on a un mot avec l'un avec l'autre, et tout d'un coup un rire, quelque chose qui passe, une main qu'on pose sur l'épaule. Parce qu'on est relié, tiens. Et ça se passe de plus en plus maintenant. Et c'est là que ça se passe, c'est dans la rue. C'est auprès des gens. C'est pas dans les temples. Les temples, bien sûr, jouent leur rôle. Les synagogues, les temples, les églises, tout ce qu'on veut, d'accord, ça joue son rôle. Mais c'est dans la vie quotidienne, dans toutes nos relations, partout, sur le terrain. C'est là que ça se passe. Et cette base qui est formée, que nous formons ensemble, eh bien, on ne dévie plus, on ne change plus d'avis. Dieu est tout ce qui est. Il n'y a rien d'autre. C'est ce que disait la Bible en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre, donc ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas un commandement, ça veut dire, c'est comme ça. Donc c'est une obligation parce que c'est ça. C'est comme ça que ça est. C'est ça les commandements. Cela est. Parce que le péché n'existe pas, puisqu'il n'y a que Dieu. Est-ce que Dieu peut pécher ? Ça n'a pas de sens. Le péché est inventé. Bien sûr, il y a des erreurs de vision. Bien sûr, ça vient de la séparation, ça vient de l'ego. Ça, d'accord. Mais c'est une erreur de perception, c'est tout. Qui a été soigneusement choisie et voulue. C'est pour ça que cette notion d'innocence devient fondamentale. Nous sommes tous innocents. Je parle bien des 7 milliards que nous sommes. Je sais que ce n'est pas facile à entendre pour beaucoup. Je sais que surtout s'il y a eu des expériences difficiles avec des violences qui ont été faites, etc., des impressions d'être victime, ce n'est pas facile, je le sais. On le vit tous. Donc j'en parle aussi avec mes tripes. Hein. Voilà. Donc ce n'est pas facile. On n'est pas sur un petit travail ici. Donc passer de la dualité à la non-dualité, ça suppose un processus. Et dans ce processus, on est invité à ne pas fermer la porte, c'est tout. Et à aller à notre rythme et à s'aimer soi-même, s'accueillir soi-même avec ses difficultés, ses peurs, ses angoisses, sa culpabilité, etc. Mais Dieu est tout ce qui est. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la vie, il n'y a que le vivant. La mort n'existe pas. C'est très pratique, très pratique.
Alors, je suis guidé à parler de notre noyau de sagesse intérieure, qui est tout ce dont on parle, en fait, dans ces groupes. Comment se reconnecter, comment simplement reconnaître que nous le portons en nous tout le temps. Et je vais citer une interview de quelqu'un qui s'appelle Sat Prem, qui a été filmé en 1982, je crois. Et il disait des choses très, très émouvantes. Hein. J'ai mis cette vidéo sur Être Plus. Sat Prem, S-A-T-P-R-E-M. Il disait quelque chose de très simple et de très touchant pour moi. Il disait, imaginez qu'on vous enlève tout. Imaginez qu'on tue toute votre famille. Qu'on vous enlève toutes vos richesses. Qu'on vous enlève vos vêtements. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste votre essence. Cette essence-là, elle est invulnérable. C'est pas possible de vous la retirer. C'est ce qui reste à ceux qui étaient dans les camps de concentration lorsque chaque jour ils pouvaient être amenés et être gazés ou tués. Et c'est pour ça que dans les camps de concentration, il y avait aussi parfois de la joie, des réveils. Il y avait même un cabaret dans les camps de concentration. Parce que les gens trouvaient cette ferveur, cette essence, alors que tout pouvait basculer d'un jour à l'autre. Et ils reconnaissaient à travers ces manifestations de chant et de joie que cela ne pouvait pas leur être enlevé. Et c'est ce qui est très touchant pour moi. Parfois, l'humain a besoin que les certitudes de l'ego soient bouleversées pour se rendre compte que ce n'est pas l'ego qui est le bonheur. c'est pas à travers l'ego que je trouve ma réalisation en tant que être divin, être d'amour, d'amour pur. Donc ce noyau de sagesse, cette essence, je suis amené à réaliser parfois dans la douleur, mais parfois non, que je suis toujours avec et que personne ne peut m'en déposséder. Quelqu'un disait, vous êtes assis sur le trésor que vous recherchez. Et parfois, il faut simplement se lever, puis regarder, et puis aller à l'intérieur, dans le cœur, et voir que cette richesse-là, elle est contenue dans cet espace, hein, dans cet espace d'une infinie sagesse. Mais comme nous l'avons soigneusement dissimulé, cette sagesse, en partie avec notre ego, qui a une voix qui essaie de masquer la sagesse, qui essaie de masquer la vérité, alors nous n'avons pas conscience, dans un premier temps, dans nos vies humaines, que ce bonheur ineffable, il est en nous, que nous le portons en nous, et que rien de réel ne peut être menacé. Donc ce bonheur-là est réel, et c'est impossible de vous l'enlever. C'est la meilleure nouvelle de l'univers. Lorsque nous commençons à nous réveiller à ce bonheur-là, alors il y a une joie qui dépasse toutes les joies terrestres. Il y a une joie ineffable. Et un des signes pour moi de l'éveil en tant qu'humain, en tant que porteur d'ego, c'est la joie sans cause. Tout d'un coup, je me réveille le matin et je suis joyeux. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Je suis joyeux d'être. Je suis joyeux d'exister. Je suis joyeux d'être dans l'existence, d'être en mouvement, d'être l'extension de l'existence, l'extension de Dieu. Et cette joie-là, c'est la joie du vivant, c'est la joie d'être aimé et de pouvoir aimer également, sans poser de conditions, juste parce que je suis vivant. Voilà, c'est pour nous, en tant qu'humains, c'est tout un chemin. Parfois, nous avons besoin d'une claque ou d'une épreuve dans notre vie pour que se révèle à nous une fraction, une partie de cette essence, que le voile soit légèrement soulevé, qui laisse briller un éclat extrême, un éclat énorme du diamant que nous portons, ce lotus, ce noyau de sagesse qui est en nous. Parfois, nous avons aussi besoin de poser de vraies questions, parce que toutes les fausses questions ont amené des réponses qui ne sont pas intéressantes. Parce que je veux et je mérite le bonheur. Hein. C'est ça que je veux dans ma vie, c'est ça que je veux vraiment. Ce que je veux vraiment, c'est aimer et être aimé, sans condition. Voilà. Alors parfois, ça commence par des situations qui m'amènent à me poser ces vraies questions. Ou qui je suis ? Qui suis-je ? D'où je viens ? Qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre ? Pourquoi cette vie qui apparemment n'a pas de sens ? Je nais, je mange, je dors, je travaille, je fais des enfants, je me marie, et puis je meurs. Mais à quoi bon ? À quoi ça sert ? Toutes ces vies, toute cette vie et ces vies qui s'enchaînent n'ont qu'un seul but, me réveiller à l'être d'amour que je suis, au travers de multiples expériences qui souvent impliquent le non-amour. C'est parce que je viole les lois divines Et la loi divine, c'est juste aime. Point. Pas celui-ci ou celle-là. Aime. Pas dans ces circonstances-là, mais aime. Quoi que ce soit qui se passe. Et toi en premier. Parfois, arrêter ma propre violence envers moi-même, c'est le début du retour. Parfois, voir que je suis un bourreau pour moi-même, c'est la fin de la victimisation. Quand je peux m'aimer pour ce que je suis et avec ce que je suis dans le chemin, sur le chemin que je suis en train de parcourir, dans l'imperfection actuelle de ce chemin de dualité. Être touché par soi-même, c'est le début de la vraie sagesse. De reconnaître que la vraie sagesse, elle dit simplement « Aime-toi tel que tu es. T'as pas besoin d'être autrement. T'as pas besoin de te perfectionner. T'as pas besoin d'arriver quelque part. Simplement reconnais que cette expérience, en cette seconde-là, est parfaite. Quelles que soient les circonstances. Et s'il y a des rancœurs, alors le chemin, c'est de voir que tes rancœurs te séparent de toi-même. Et j'ouvre ce livre très très beau qui s'appelle « Et l'univers disparaîtra » de Gary Renard, qui est autour du livre « Un cours en miracle », mais qui raconte aussi une histoire qui lui est propre. Et à un moment donné, il y a un paragraphe qui s'appelle « L'amour n'a pas de rancœur ». Et il y a quelques phrases qui m'ont beaucoup parlé, que je pourrais citer maintenant, qui disent « Car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour, et son créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve, de haine, pardon. Qui peut rêver de haine et ne pas craindre Dieu ?» Donc quand j'ai un jugement, quand j'ai une rancœur, ça parle avant tout de ma vision séparée, de ma vision qui se croit coupée de l'amour. Et donc la première des rancœurs que j'ai, c'est envers moi-même. Parce que si je suis complètement connecté à tout ce qui est, connecté à l'amour, je ne peux pas agir avec rancœur. Et puis ça continue un petit peu plus loin. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité, autant il est certain que ceux qui pardonneront trouveront la paix. Donc l'amour n'a pas de rancœur, c'est pas pour sauver l'autre ou arrêter de faire du mal à l'autre que c'est dit. C'est simplement pour reconnaître d'où je viens. Si j'ai de la rancœur, je projette quelque chose qui est en moi, qui est inconfortable, je le projette sur l'autre parce que c'est tellement inconfortable que je ne veux pas de ce bébé-là, qui s'appelle rancœur, jugement, comparaison ou quoi que ce soit d'autre. Donc le jour où vous arrêtez les rancœurs d'abord contre vous-même, ça peut être un jour béni, hein, parce que c'est le début de reconnaître ce qui est vrai. Je m'aime tel que je suis parce que je suis issu d'un monde où il n'y a que l'amour. Donc il n'y a pas d'autre possibilité. Je ne peux pas arrêter de juger l'extérieur si je me juge à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Ce que je vois est le reflet de ce que je pense. ou de ce que j'agis. Donc parce que je me crois coupable, parce que je me crois séparé de l'amour, alors je vais voir ça à l'extérieur. Et je vais commencer à juger et commencer à avoir des rancœurs. Alors un des maîtres ascensionnés qui sont venus visiter Gary Renard chez lui, dans son salon, qui se sont matérialisés plusieurs fois pendant 9 ans, qui lui ont donné un enseignement qui s'appelle Pursa, il dit « Arrêter d'avoir des rancœurs est tout aussi important pour ta vraie vie que d'arrêter de fumer le fût pour ta vie corporelle. » Voilà, c'est reconnaître la vérité, arrêter d'avoir des rancœurs. Et ceux qui pardonnent trouveront la vraie paix. Hein. Ceux qui pardonnent, simplement, reconnaissent que il n'y a que l'amour. Reconnaissent que ce que je crois que mon frère m'a fait, en vérité, ne s'est pas produit. En vérité, est un jeu pour m'aider à revenir à l'amour. Mais chaque fois que je juge, chaque fois que j'ai une rancœur à propos de quelque chose que soi-disant un autre ou une autre m'a fait, alors je me crée une occasion supplémentaire d'être séparé et je me crée une occasion supplémentaire de rechoisir une autre fois, de rechoisir en fonction de la vérité plutôt qu'en fonction de la séparation ou du jugement ou de la rancœur. C'est ce qu'on appelle le vrai pardon. Alors le vrai pardon, c'est pas reconnaître que l'autre est coupable ou que l'autre a péché ou que l'autre a fait quelque chose de mal. C'est simplement se rappeler que dans l'unité, il est mon frère, il est moi et je suis lui, et que tout ça, c'est dans le scénario. Hein, tous les actes, toutes les paroles qui apparemment sont blessants sont dans le scénario et visent simplement à me rappeler que je peux guérir cette croyance de séparation en me rappelant de ce qui est vrai. Et lorsque c'est difficile, je peux demander, appeler à l'aide le monde subtil, c'est-à-dire la partie de moi qui n'est pas dans l'expérience de dualité, qui m'accompagne en permanence, que le cours appelle le Saint-Esprit, l'Esprit vrai, l'Esprit qui est juste, qui n'est pas divisé, qui se manifeste dans ma vie à chaque fois que je suis assez calme pour laisser l'ego se calmer, pour laisser l'ego de côté, arrêter d'interférer, arrêter de prétendre avoir raison avec l'ego. Chaque fois que je fais silence, que je laisse les rides du lac redevenir calmes et la surface du lac redevenir lisse, alors ce monde subtil, mon essence pure, peut se manifester à moi, peut se manifester en m'aidant à pardonner, en me rappelant ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, en me rappelant que l'expérience humaine est une pièce de théâtre qui a son importance, que j'ai décidé de jouer, dont j'ai écrit le scénario et dont j'ai endossé certains rôles et j'ai attribué certains rôles à d'autres parties de moi-même que j'appelle mes frères et sœurs dans l'expérience. Dans un seul but, celui de me rappeler qui je suis, de me rappeler l'amour, y compris si c'est quelque chose de difficile, y compris si c'est une épreuve, un divorce, un malentendu, une blessure, une trahison, une injustice, voilà, toutes ces choses qui apparemment ne seraient pas issues de l'amour, mais qui visent à nous rappeler que seul l'amour est notre demeure et que c'est ça qui est important. Et que lorsque les lois divines sont violées, en apparence, dans notre monde, c'est pour nous donner envie du monde où les lois divines ne sont jamais violées, le monde de l'unité. C'est par la perspective du fait que je vois la peur, c'est comme si j'étais en dehors de l'amour, alors j'ai encore plus envie de revenir à la maison, un monde où la peur n'existe pas, où le mal n'existe pas, où le bien est sans opposé et où l'amour est la seule chose qui est. Donc nous sommes dans une sorte de salle d'entraînement pour apprendre à choisir l'amour tout le temps, en toutes circonstances, et dans un monde qui apparemment viole en permanence ces lois-là. Lorsque je choisis l'amour, y compris dans la plus profonde noirceur, alors la dualité a joué son rôle. Et la dualité peut cesser, puisque je n'ai plus besoin de cette perspective pour revenir à la maison. Je l'ai fait par mon choix. Voilà, ça peut prendre longtemps, mais ça commence à partir du moment où j'ai cette bonne volonté de dire, ça suffit de jouer, maintenant je rentre à la maison. Maintenant, je me centre sur mon essence, je me centre sur qui je suis, et je lui donne la priorité absolue. C'est ça qui est important. Je veux le gros poisson et je laisse les petits partir. Parce que c'est le gros poisson, c'est l'amour qui m'importe. Et avant tout, je le fais pour être heureux, je le fais pour moi. Lorsque j'aime mon frère, lorsque j'aime quelqu'un qui me juge, c'est moi-même que j'aime. C'est ma vision du monde qui change. Et c'est la reconnexion à mon essence qui est en cours. Et je ne peux pas ne pas profiter en premier de la reconnexion à mon essence. C'est moi qui suis servi d'abord. Et bien sûr, j'en fais profiter tout mon entourage, tous mes frères et sœurs. Donc c'est divinement égoïste ce que nous faisons. Parce que nous mettons l'accent sur l'amour, nous mettons l'accent sur être heureux pour nous, aller bien, arrêter de juger pour nous faire du bien. Mais ce bien-là, sans opposer, ensuite, il est visible et distribué et se répand autour de nous. Et c'est le but de la création. La création, c'est l'amour qui s'étend en permanence. Donc on le fait pour nous, on pense à nous, mais on le fait dans l'esprit de l'unité pour que ça profite à toute la création. J'ai parlé.
Je voudrais revenir sur la question du pardon, qui est vraiment très difficile en ce moment. J'avais à cœur de régler cette question qui traînait depuis pas mal de temps avec des êtres proches, et je me suis dit bon, allez, maintenant on va attaquer le problème parce que ça. Ça peut pas durer comme ça, quoi. Et je me suis dit, allez, un peu de bonne volonté. On va essayer d'aller dans le bon sens. Et donc j'ai repris contact avec ces personnes. On a réussi à renouer un dialogue. Le pardon. Enfin, cette démarche du pardon semblait bien partie. Et c'était libérateur dans un premier temps. C'était libérateur et je sentais que c'était quelque chose qui pouvait soulager aussi bien ces êtres que moi, quoi. C'était oui, vraiment libérateur. Et progressivement, ce qui s'est passé, c'est que ces êtres proches se sont remis à mettre en place des schémas qui, pour moi, étaient assez toxiques. Et donc, soit je continuais à les accepter, et dans ce cas-là, je retombais dans des schémas qui, pour moi, étaient pas bon du tout, et je serais redevenue la victime, et ça, il en était hors de question. Donc il a fallu dire stop. Et dire stop, c'était mettre des limites, dire non et sortir du pardon. Parce que là, dans ce cas précis, le pardon était impossible. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, parce que pour moi, c'était comme un échec. Je me suis dit, voilà, j'ai échoué. J'ai commencé à me juger, j'en ai ressenti une profonde culpabilité. Et pourtant, c'était, je devais me rendre à l'évidence. Il n'y avait pas d'autre choix. Alors, bien sûr, je percevais les deux niveaux. Je savais que dans la pièce de théâtre, on était en train de jouer ça tous ensemble, mais qu'à un autre niveau, je ressentais cette unité. Je savais que dans le fond, tout ça, c'était une illusion. Et aujourd'hui, voilà, je sais que peut-être dans cette vie, ça ne sera pas possible d'arriver au pardon, mais en tout cas, ce qui ressort de très fort dans cette histoire, c'est que j'ai appris à me respecter et à me mettre à la première place pour la première fois. Et je suis en train de sortir de cette culpabilité où finalement il fallait que je me redonne cet amour à moi-même, que je me pardonne. Et c'était vraiment très enrichissant. Mais paradoxal, dans la mesure où le pardon, en fait, ne résultait pas de la volonté de ces êtres, mais devait venir de moi. Et c'était inimaginable à l'époque. Et vraiment, c'était très éprouvant. Et aujourd'hui, j'essaie de l'accepter.
Oui, merci pour ton partage. En fait, le pardon, c'est quelque chose qui se passe en esprit. Ça n'a rien à voir avec une action particulière. Donc, je peux très bien quitter mon compagnon, ma compagne, ne plus voir certaines personnes, intenter un procès, tout en étant dans le pardon. C'est très important de commencer à comprendre ça. Le pardon est une attitude intérieure. Et donc, il n'y a rien à réussir et il n'y a pas d'action à faire ou à ne pas faire. Je fais ce que je sens dans l'amour. Je ne dois rien à personne et personne ne doit rien. Et donc, dans une situation particulière, je vais faire que ce que je sens neutre. Ça peut être quitter. Un compagnon, une compagne, encore une fois, je répète, ça peut être faire un procès, ça peut être ne plus voir des gens, ça peut être exiger une part qui m'est due sur un héritage, je sais, n'importe quoi. Hein? Je fais ce que je sens, mais ce que je fais n'a rien à voir avec le pardon. Le pardon, c'est comment je fais ce que je fais. Et c'est comme le pardon, c'est voir qu'il n'y a rien à pardonner, c'est ce que tu viens d'ailleurs d'exprimer en disant bon, ben c'est une pièce de théâtre, mais il est souvent difficile parce qu'on a tellement appris à associer l'action et à donner une valeur à l'action, positive ou négative. Ça n'a pas de valeur. Aucune action n'a de valeur. Faire un procès, ne plus voir quelqu'un, se marier, pas se marier, divorcer, même des assassinats n'ont pas de valeur. c'est un jeu qui est joué dans la pièce de théâtre, parce que y a pas, la mort n'existe pas. Vraiment, vraiment. C'est neutre. Et c'est très important de s'ouvrir à ça. Le pardon, c'est une attitude intérieure. Et c'est amusant, parce que pendant tout à l'heure, merci d'avoir partagé ça, et pendant que Avi parlait, il a cité les camps de concentration, en disant qu'il y avait un cabaret dans les camps de concentration, il m'est revenu très fort ce qui s'est passé avec le père Maximilien Kolb. Si vous allez sur Wikipédia, vous tapez Maximilien Kolb, je crois que ça s'écrit comme ça, je crois que c'est K-O-L-B-E, si je ne me trompe pas, mais de toute façon ça va apparaître. Et c'est une histoire et qui est vraiment un excellent exemple de pardon. Bien sûr, il y en a des milliards tous les jours, des exemples de pardon, parce qu'on fait que ça. Hein, d'ailleurs, on est invité à pardonner en toutes circonstances, à tout instant. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce camp? C'était la règle que quand un prisonnier s'évadait, on rassemblait dans la cour tous les prisonniers et on en prenait 10 qu'on mettait dans un bunker, qu'on enfermait sans nourriture, sans eau, jusqu'à ce qu'ils meurent de faim et de soif. Voilà, pour faire un exemple, pour dissuader les évasions. Or, ce jour-là, il y a eu une évasion, donc tout le monde a été rassemblé, dont le père Maximilien Kolb. Bah, il faut bien s'imaginer que ceux qui étaient là, ils étaient venus par des trains, dans les wagons à bestiaux, etc. Ils étaient parqués. Ils avaient déjà tout un vécu. Hein, ils sont là. Imaginez-vous, vous êtes là. Hein, et voilà, il n'y a pas le choix. Vous êtes dans l'instant présent, dans ce camp. Et puis, on vit ensemble. Et puis, tout le monde a peur et on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait rien. On ne connaît pas le futur. Hein. Et voilà que ce père Maximilien Kolb, donc l'officier SS qui est là, commence à choisir les uns après les autres, dit prisonnier, et puis il prend le voisin de Maximilien Kolb et il lui dit « toi ». Et Maximilien entend le prisonnier qui dit mais j'ai une femme et des enfants ». Et à ce moment-là, brusquement, Maximilien Kolb dit « laissez-moi prendre sa place ». Il dit ça à l'officier SS qui commence par réagir et qui dit « bon ben ok ». Il dit pourquoi ? Bon, bah ok. Et donc, ils partent, les 10 partent. Évidemment, tout le monde est en silence. D'habitude, quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passait dans les bunkers ? Ils se tuaient les uns les autres, c'était atroce, il y avait des invectives, des hurlements, c'était vraiment la bérésina. Et là, cette fois-là, tout de suite, on a entendu des chants. Des chants. Des chants. Imaginez-vous. Des chants, moi ça me fait pleurer. Pourquoi ? Parce qu'on ressent la paix. Tout à l'heure, Avi nous citait Sade Prem qui dit « Vous perdez tout, 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 vous ne reste plus rien, qu'est-ce qui vous reste ? Mais qui vous êtes ?» Et ce qu'on est, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Et donc, dans ce camp, où il n'y avait plus rien, même plus à manger, plus à boire, rien, il n'y avait plus qu'à attendre la mort, c'est-à-dire la fin du corps physique. Et il y avait ces chants. Et ils étaient tous subjugués aux alentours d'entendre ces chants, et ça a duré comme ça. Et puis peu à peu, effectivement, le corps s'affaiblit, il y a une paix, ils étaient en paix. Mais vous pouvez le ressentir, alors que vous écoutez ce que je vous dis là, on peut le ressentir ensemble, cette paix extraordinaire. Ok, vous avez peut-être déjà fait des jeûnes, moi j'en ai fait, et il y a une paix qui s'installe, on n'a peut-être plus grand-chose à manger, mais ce n'est pas important. Et donc on chante. Et peu à peu, ils sont éteints les uns après les autres. Et Maximilien était le dernier. Il était vraiment dans la paix, dans la joie, dans la paix. Il avait qui il était. Et on raconte que quand l'officier SS est arrivé, le médecin, pour achever, parce qu'il a calmement tendu son bras pour recevoir la piqûre de cyanure. Et c'est parfait. C'est parfait. Voilà le pardon. Et donc on voit ça, on pardonne. Il n'y a que des innocents, il n'y a qu'un jeu qui est joué. Il n'y a pas de mort. Le jeu est déjà joué à l'avance. Et on peut, si vous vous laissez aller, simplement laisser l'esprit en vous. L'esprit est là, c'est l'esprit qui fait ça. Il n'y a que l'esprit. Alors c'est vrai que ce n'est pas une petite chose, c'est vrai que ce n'est pas évident. Moi ça me fait même des larmes de raconter cette histoire. Mais c'est magnifique. Le pardon n'est pas une action particulière, c'est un état d'esprit. Ça n'implique aucune action a priori. Et encore une fois, quand on entend dans les groupes des gens qui disent « Mais dans quelles circonstances, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et d'ailleurs, dans le livre de Gary Renner, que citait tout à l'heure Avi, « Et l'univers disparaîtra », eh bien, il parle de ça en disant, ben, les gens disent, qu'est-ce que ferait Jésus ? Il pardonnerait. Voilà. En tout cas, il pardonnerait. Mais le vrai pardon, qui n'a rien à voir avec le pardon que, habituel, le pardon du monde, qui est l'autre a péché, ou il a fait une erreur. Non, non. Bien sûr, il y a une erreur de vision. On a tous des erreurs de vision. C'est inhérent à l'incarnation humaine. Mais il n'y a pas de péché. Il n'y a que des innocents. Il n'y a qu'un jeu qui est joué. Et c'est nous-mêmes qui créons notre expérience. Donc le père Maximilien Kolb avait créé son expérience. C'est ce que dit Jésus par rapport à sa crucifixion. Donc, j'avais choisi cet épisode. J'avais des soins à prendre et ça m'a permis de me libérer. Et donc je n'ai jamais dit que j'étais victime de quiconque. Voilà ce qu'il dit. Il dit même, je vous invite à prendre mon chemin de la croix comme le dernier chemin inutile. Ça a été une démonstration qui a été faite à un moment donné dans l'histoire. Le but, c'était la résurrection. On se rappelle qui on est, on retrouve qui on est, comme le père Maximilien Kolb et ses compagnons dans ce bunker de la faim, où ils ont pu retrouver cette paix incroyable, cette innocence, cette béatitude, et partir tranquillement. Magnifique! Authentique, réel, c'est ça l'amour. Il avait choisi son expérience, comme nous avons tous choisi notre expérience. C'est pour ça qu'il n'y a que des innocents. Et les êtres apparemment sanguinaires sont un produit d'état de conscience général. La pièce de théâtre est jouée par l'ensemble. Donc je prends la pleine responsabilité de ma propre expérience. C'est fondamental. Et je remercie mes frères et sœurs de jouer toute cette pièce de théâtre, y compris cette société qui s'effondre, y compris les Monsanto, tout ce qu'on peut imaginer, etc. Les prises de pouvoir, les abus politiques, les corruptions, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est, si j'ai le moindre jugement, c'est moi qui crée ça. Et donc la libération, c'est effectivement le pardon, mais le vrai pardon. Il n'y a rien. Comme disait tout à l'heure Ravi, qui citait le pardon, mon frère n'a rien fait. Parce que nous sommes un, ça n'est qu'un jeu imaginé, inventé. Mais c'est pas réel, il ne m'a rien fait. On ne peut pas toucher le Fils de Dieu que nous sommes tous. C'est impossible. Est-ce que Dieu est vulnérable? Impossible. Mais Dieu est tout ce qui est, il n'y a que Dieu. Bon, c'est clair. C'est ça le pardon. Alors évidemment, on n'arrive pas à le faire dans l'ego. Donc, temporairement, on va dire à l'esprit ou à Dieu, « Ok, viens en moi pour pardonner pour moi. » C'est des façons de parler. C'est une aide temporaire. Mais il n'y a que Dieu. C'est Dieu qui se parle à lui-même. C'est Dieu qui joue cette pièce de théâtre par les petits personnages que nous sommes. Ça permet d'exprimer l'amour. Ça permet vraiment de pardonner et de transcender cette illusion et de sortir du rêve, enfin, de ce rêve de séparation imaginée qui n'existe pas, mais qui semble réel. Donc laissez-moi prendre sa place, c'est magnifique. C'était comme ça dans l'instant, c'était juste pour lui, dans son expérience, et pas pour les autres. C'est ça le pardon, c'est que chacun a joué son rôle parfaitement, y compris ceux qui n'ont pas pris la place de ce prisonnier, c'était Maximilien Kolb. Et il n'est pas plus que les autres, c'était son rôle. Et donc on se remercie les uns les autres, on se remercie des rôles parfaits que nous jouons, y compris l'officier SS, etc. Parce que lui, ben voilà, il était allemand, il était enrôlé dans l'armée, et puis voilà. Et puis les SS, ben c'est un produit de l'état de conscience générale sur cette planète. Et tout est un produit de l'état de conscience générale sur la planète. Et c'est pour ça que le pardon, c'est vraiment, c'est une dernière illusion, mais c'est la seule illusion qui permet de sortir de l'illusion. Le pardon, c'est un état de conscience. C'est pas une action particulière. Le pardon, c'est tout est un. Tout est lumière. Dieu est tout ce qui est. Et donc, le Ho'oponopono, par exemple, c'est je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je suis désolé, ça veut dire, ah, oui, j'ai des fausses croyances à ton sujet. Je t'imagine un homme, une femme, avec ceci, cela, avec telle caractéristique. Mais en fait, tu es le Christ, tu es la lumière, tu n'as pas de caractéristique. comme Dieu n'a aucune caractéristique, tu es un être de lumière infinie. Donc je suis désolé, pardonne-moi cette croyance. Je t'aime. Merci. Merci pour ta présence. C'est ça le vrai Ho'oponopono. C'est pas souvent ce qu'on a interprété. Hein. C'est vraiment, l'autre est totalement innocent et je me pardonne moi-même de... C'est-à-dire, je reconnais que je mets des étiquettes inconscientes sur tel ou tel personnage. Il est comme ceci ou comme cela, etc. Ok. Ok, je m'accueille avec ça. Je me pardonne. C'est bon. C'est bon. Je t'aime et tu m'aimes. Merci. Merci pour notre relation.
Alors à propos du pardon, il y a aussi une phrase de « Et l'univers disparaîtra » qui est citée, je trouve assez pertinente. Et c'est un processus de pardon qui a été donné à Gary Renard. Alors, avant que je la cite, je trouve utile de dire que on entraîne l'esprit. Hein. C'est pas hier je savais pas pardonner, aujourd'hui je sais. C'est à chaque fois je refais la tentative de pardonner. Et je peux pas rater, c'est juste un processus pour moi. Le processus c'est de me rappeler de la réalité, de la mettre au premier plan plutôt que de mettre l'illusion au premier plan. Et donc dans notre monde, il y a des entraînements. Il y a des processus et puis nous y arrivons de plus en plus. Ça semble graduel. Hein. Donc, ce que je dirais que c'est important de persister. Persister, ça veut dire affirmer la volonté de reconnaître la vérité tout le temps, même si c'est dur, même si ça marche pas, même si on pense y arriver qu'en partie. Donc, Pursa avait donné à Gary Renard un processus de pardon en quelques phrases, hein, qui se trouve à la page 318. Il est très, très intéressant parce que le chapitre, il s'appelle « Les expériences de vie imminentes ». Je trouve ça assez cocasse. Et le processus, il dit simplement ceci, je vais le lire lentement. Hein. Si j'ai fabriqué ce monde, cela veut donc dire qu'il n'y a personne à l'extérieur là-bas. C'est moi-même qui ai fait apparaître tous ces gens que je considérais comme la cause du problème. Rien d'irréel n'existe. Je peux réellement comprendre qu'il n'y a rien à craindre et ensuite nier la capacité de tout ce qui n'est pas Dieu de m'affecter. Donc, même si au début c'est imaginé, alors je m'imagine comme étant un acteur, une actrice dans la pièce de théâtre. Je m'imagine avoir revêtu le manteau, mon propre manteau, mon propre rôle. J'imagine mon frère, mes frères, s'il y en a plusieurs, d'avoir revêtu le manteau du méchant, ou des méchants, ou de ceux qui blessent, ou de ceux qui sont toxiques. Et j'essaye d'imaginer qu'ils jouent leur rôle. J'essaye de voir que c'est moi qui les ai installés dans leur rôle. C'est moi qui leur a dit « tu fais ci, tu fais ça » dans le scénario. Et que tout ce qui est extérieur à moi, apparemment, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai fabriqué le monde. Et voilà. Ce qui est salvateur, et moi j'en ai fait l'expérience dans mon propre processus de pardon, c'est cette distance que je mets avec les choses. C'est-à-dire, je vois ton rôle, mais je vois pas que tu es en train de me faire quelque chose. Je vois ton rôle. Hein, je m'élève un peu sur la situation. Et je me vois moi-même dans le rôle de celui qui est blessé. Et puis, je vois aussi que, en dessous, le rôle, en dessous, le manteau de l'illusion ou du personnage, mon frère est pure lumière et que je l'avais oublié. Je m'étais centré sur le manteau plutôt que d'être centré sur sa lumière. Que j'étais pure lumière et que je l'avais oublié aussi. J'étais centré aussi sur mon rôle et pas sur ma lumière. Et j'offre ça à l'esprit, hein. Pourquoi je l'offre à l'esprit? Parce que l'esprit n'a pas besoin de se rappeler la vérité. L'esprit est la vérité. Et donc, quand j'offre ça à l'esprit, je fais confiance que ce qui est dans la vérité réalise les choses aussitôt qu'elles sont présentées. Donc, bien sûr, moi j'ai du mal en tant qu'humain. C'est normal. C'est normal. Mais je fais confiance que pour l'esprit, c'est un processus instantané. Et que ça a des effets si j'offre en toute innocence, en toute humilité, toute la situation. Hein, j'offre cette situation, je ne sais pas comment m'en dépêtrer, mais l'esprit le sait. Et puis pour moi, ce qui est salvateur, c'est aussi de rire de la situation. D'enlever le drame associé à la situation. L'ego se nourrit du drame. Enlever le drame, il n'y a plus de problème. L'ego est une usine à problème. C'est normal, c'est sa raison de vivre. S'il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'ego. Et le seul problème, c'est la séparation. Donc, le rire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ateliers de rire en ce moment. Le rire, c'est se rappeler que tout ça, c'est pas réel. Même si je crois fortement que c'est réel, alors je peux me dire à l'intérieur, mais oui, c'est vrai, je le crois fortement, mais j'ai oublié, c'est normal, donc je me le dis quand même. Ces frères et sœurs ne sont pas vraiment à l'extérieur de moi. C'est moi qui les ai placés là pour que cette situation s'accomplisse pour m'offrir une opportunité de pardonner. Donc c'est parfait. C'est parfait, je l'ai l'opportunité. Qu'est-ce que je choisis, hein? C'est toujours, l'expérience humaine, c'est toujours une question de qu'est-ce que je choisis. Donc j'ai choisi le jugement, d'accord. Dieu dit d'accord au jugement, hein? Donc il n'y a pas de problème avec le jugement. Moi je peux faire un problème avec le jugement. Mais là c'est pas Dieu, là c'est l'ego qui fait un problème. Donc, je juge, d'accord, je juge. Mais est-ce que je pourrais les voir autrement? Est-ce que je pourrais voir ce frère autrement? Oui, bien sûr. Je pourrais l'aimer. Oui, mais il m'a fait un truc terrible. Oui, d'accord, d'accord. Mais je peux quand même l'aimer. Pourquoi? Parce que je sais que pour faire un truc terrible, il doit être dans une sensation aussi, dans une émotion terrible, dans un ressenti terrible. Si je me ressens plein d'amour, je ne peux pas faire des choses terribles. Donc, je me dis, ah bah oui, c'est vrai, il vit des choses terribles, c'est pour ça qu'il me fait des choses terribles. Et donc, moi, je me mets dans ses baskets. Moi, ça m'aide. Je me dis, ah bah oui, qu'est-ce qu'il doit souffrir pour me faire des choses toxiques, faire des choses pareilles? Qu'est-ce qu'il doit souffrir, ce frère? Et quand je dis qu'est-ce qu'il doit souffrir, ce frère, je suis déjà beaucoup plus proche de lui que quand je juge ce frère. Quand je dis à l'intérieur, il n'aurait pas dû faire ça. Qu'est-ce qu'il doit souffrir pour en arriver à cette extrémité de faire des choses aussi difficiles pour moi, aussi terribles? Viens dans mes bras. Hein? Ce vient dans mes bras, quand je peux arriver à le dire, quand je peux arriver à être dans ses baskets et à sentir depuis quelle souffrance, depuis quel état de séparation il doit être pour dire ou faire ce qu'il dit ou ce qu'il fait, alors j'ai pardonné. Viens dans mes bras, c'est je reconnais que toi et moi, on n'est pas différents, on est la même chose, on est une même essence, un même esprit. Alors, bien sûr, à notre échelle, c'est pas immédiat. Bien sûr, à notre échelle, il y a des rancœurs. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, lâcher les rancœurs, c'est surtout pour moi que je le fais. Parce que les rancœurs, elles m'empoisonnent. Je crois que l'autre est toxique, mais les rancœurs sont toxiques, et les rancœurs, c'est moi qui les génère. Les rancœurs font que je me contracte, que j'arrive plus à aimer. Mais si j'arrive plus à aimer, ben je deviens malheureux ou malheureuse. Parce que je me dis, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et je peux pas aimer en inculpant ou en prétendant que quelqu'un est responsable de mon malheur ou de mon bonheur. Donc oui, le changement est un changement d'esprit. Il n'y a même pas besoin de dire un seul mot à cette personne. Moi, j'ai pardonné des dizaines de personnes à la chaîne, comme dans une usine. Ça me fait rire. Parce que j'ai écrit leur nom sur un carnet et puis j'ai commencé à tous les pardonner un par un. Et tous ceux que je connaissais pratiquement dans ma vie, ils sont passés. Et puis, voilà. Plus je le fais, plus je sais le faire. Il n'y a pas besoin de vouloir être parfait et de penser que ça va... C'est une formule magique. J'entraîne mon esprit à penser avec l'amour, quel que soit ce qui m'a été proposé. Mais quand je fais ça, bah, je déclare mon propre amour, je déclare mon indépendance et mon invulnérabilité, puisque on m'aime, je pense avec amour, on me juge, je pense avec amour. Donc je suis autonome, je suis effectivement autonome. C'est-à-dire que ce que l'autre pense ne reflète qu'une opinion issue de sa propre souffrance. Si je laisse cette opinion dans sa neutralité et je me base sur aime-le, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, c'est terminé. Je suis plus vulnérable à ça. Mais en premier, et comme je disais tout à l'heure, je m'aime quoi que je dise et quoi que je fasse. Parce que je fais toujours de mon mieux. Je peux reconnaître que mon mieux varie d'instant en instant, que parfois mon mieux, il semblerait être au ras des pâquerettes, mais c'est mon mieux. Il n'y a pas plus haut que le ras des pâquerettes à ce moment-là. Donc, je suis au maximum de ma hauteur. Et quand mon mieux, il est dans un amour d'une liberté incroyable, c'est aussi le mieux que je peux faire. Si je peux reconnaître que à chaque seconde de ma vie, je fais de mon mieux, je fais déjà énormément. Je me pardonne à moi-même. C'est-à-dire que je m'aime inconditionnellement, puisque de seconde en seconde, c'est le mieux que je fais, le mieux pour moi. Le mieux avec tout ce qui m'accompagne, comme dans mon esprit, et toutes les turbulences qu'il y a dans mon esprit séparé. Mais dès que je dis je fais de mon mieux, y compris quand je suis en train d'insulter quelqu'un, eh ben je commence à m'aimer. et je commence à changer. À changer l'insulte en pardon pour moi-même. C'est-à-dire que je reconnais mon propre état de séparation, mais je le reconnais depuis un état qui peut observer, qui peut le voir depuis la paix. Qui peut dire, bah oui, j'en suis là, voilà. Aujourd'hui, bah c'est ça que je peux faire. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire mieux. J'ai fait le maximum. Mais en disant ça, j'élève déjà ce maximum. Parce qu'il n'y a plus, t'aurais dû faire autrement. T'aurais dû inventer quelque chose d'autre. Bah non. Sinon, je l'aurais fait. Si ce mieux-là était possible, j'aurais sûrement fait. Voilà. Donc je peux commencer par moi. Hein. Et Gary Renard nous a confié une confidence lorsqu'il est venu faire une conférence, et qu'après on l'a vu en privé. Il nous a dit, avant, quand je devais pardonner, ça me prenait 30 ans. Maintenant, 30 secondes. Et c'est ça l'entraînement. L'entraînement, c'est, ah oui, j'ai jugé. Comment je pourrais voir autrement ? C'est vrai ça, tiens, je ne me pose pas cette question. Est-ce que je peux voir la situation autrement ? Et puis je commence à dire, tiens, est-ce que je peux être guidé par l'amour pour voir cette situation ? Je n'ai pas besoin de dire une seule chose à ces personnes, à cette personne. Je n'ai pas besoin de faire une seule chose. J'ai juste besoin de considérer qu'il y a une autre voie possible que la condamnation ou le jugement ou tout ce qui me contracte à l'intérieur. Et cette autre voie, elle peut, comme mon mieux, varier d'instant en instant. Hein, je peux me rappeler que aimer c'est simple, ça demande d'être détendu, alors que détester, ça demande d'être tendu, contracté. Et que quand j'aime mon ennemi, d'ailleurs en Tanzanie, j'étais sidéré parce qu'à l'arrière des camions, il y a écrit « Aime ton ennemi » en anglais. Et je me dis, c'est super, parce que c'est plein d'occasions de pardonner qui défilent sur la route. Et puis il y en avait plein d'autres. Hein. Presque chaque camion, il y a une phrase comme ça. Une phrase qui parle de « Rappelle-toi qui tu es ». Puisqu'on est souvent sur la route, là-bas, c'est plein d'occasions d'aimer. Ce qui est important, c'est de se rappeler que aimer, c'est vrai et simple, et ennemi, c'est une turbulence de l'esprit qui est temporaire. Parce que notre vraie nature, c'est l'amour, et donc on veut expérimenter des choses autres, ok, mais on reviendra à l'amour. Donc on peut s'entraîner. Ce monde-là, c'est une salle d'entraînement hein, pour aimer sans condition. Alors moi, ce qui m'aide, je l'ai partagé souvent, hein, c'est de considérer qu'on a joué ensemble avec l'autre, celui qui m'a apparemment fait entrer dans le jugement, et puis qu'après il me dit, je t'ai bien eu à vie, hein, t'y as cru à mon rôle, t'y as cru dur comme fer, et en vérité, après on rit tous les deux parce que c'est une bonne farce la situation. Quand j'ai enlevé le drame, l'ego ne sait plus où se mettre. D'ailleurs, il n'est plus nulle part. Parce qu'à cet endroit-là, c'est qu'une rigolade entre deux frères qui se bidonnent complètement, qui se tapent le ventre de rire. En se disant, on a pu imaginer un truc aussi tordu que ça. Bah, on est vraiment fort. Hein.
Donc moi, je suis dans la problématique du processus de la prise de conscience, en fait. je vais apporter mon témoignage, qui est un témoignage simple. Hein. J'avais toujours vécu ma vie comme une souffrance, en fait. J'ai considéré que j'avais des mauvais parents et que c'était ma croix. Il y a quelques années, j'ai commencé à pratiquer le Qigong. Et dès la première séance, j'ai senti que dans ce corps qui souffrait, il y avait quelque chose qui n'était pas souffrance. Il y avait une énergie de vie qui pétillait, qui demandait qu'à s'exprimer. Et là, j'ai compris que je faisais vraiment fausse route dans ma souffrance. Et petit à petit, à force de pratiquer le Qigong, à force de me concentrer sur mon corps pour éliminer la souffrance, les années ont passé. Et un jour, dans la méditation, tout d'un coup, j'ai eu la révélation de l'instant présent. Et que dans l'instant présent, dans la non-pensée, il n'y avait plus de souffrance. Et en fait, j'ai pris conscience que de la non-dualité, brusquement, que tout était dans ma tête, que le tout, c'était ça qui était vrai, les choses et leur contraire. Et la souffrance s'était filochée. Et j'ai compris que finalement, c'était le mental qui fabriquait ce monde de fous, que l'instant présent, c'était la lumière, qu'on avait le droit d'être ce qu'on était, qu'on ne pouvait pas être autre chose que ce qu'on était, et que c'était une lumière. Et que finalement, ce pétillement de vie qui existait dans notre corps, il suffisait simplement de dire oui. Et à ce moment-là, le cœur s'ouvrait et il n'y avait que l'amour qui était possible. Et face à cette révélation qui m'a bouleversé, j'ai voulu expliquer à mes amis, un ami plus particulièrement, que je considérais comme un frère de souffrance, j'ai voulu lui expliquer ma révélation et j'ai compris que c'était pas possible en fait, que c'était un travail complètement personnel et c'est pour ça que donc je reviens aujourd'hui sur cette problématique de la prise de conscience, qu'on ne peut pas expliquer aux autres ce qui nous arrive. On ne peut faire que, je crois comprendre qu'on ne peut faire que simplement vivre ce qui nous arrive, vivre cette chose merveilleuse, et que les autres, peut-être ça les aidera, mais simplement à nous voir uniquement.
Oui, merci Christophe. Tu soulèves quelque chose qui nous arrive à tous, c'est-à-dire cette idée d'avoir envie de partager une découverte. Et c'est tout à fait juste d'avoir envie de la partager. Quand on sent un bonheur, on a envie de le donner, on a envie de l'étendre. C'est la moindre des choses. Et en fait, il y a un ajustement qui se fait en ce moment, chacun d'entre nous, à l'échelon planétaire. Je parle surtout pour ceux qui se réveillent plus consciemment. C'est cette compréhension que, effectivement, comme tu viens de le dire, ça se passe en nous. Parce que ce qu'on veut partager, c'est déjà dans les autres. Et que si j'ai l'impression que l'autre est pauvre, n'est pas dans le bonheur, est dans l'angoisse, etc., ok, apparemment oui, et lui a cette croyance, c'est son rêve, c'est son cauchemar. Mais là où je peux vraiment l'aider, c'est en disant, je reste de roc, je reste dans la certitude de qui il est. Et c'est exactement la même chose que si je dis, je reste dans la certitude de qui est Dieu, de ce qu'est la vie, de ce qu'est la réalité, c'est-à-dire que lumière et rien d'autre, le bien sans opposé. La non-dualité, c'est tout est un. Et donc, mon frère ou ma sœur est un, il est cela. C'est je suis cela. I am that, je suis cela, je suis ce qui est. Et donc, quand j'essaye de... Je viens de dire le mot « essaye ». Et c'est ce mot « essayer » qui commence à disparaître. Et il est remplacé par « je laisse ». L'ego supporte pas ça. Mais je laisse l'esprit m'utiliser à sa façon. Comme il utilise les 7 milliards que nous sommes à sa façon. Et donc c'est une prise de conscience que le plan est parfait maintenant. Et que si j'ai envie que, et c'est la moindre des choses, que l'autre soit dans le bonheur, eh bien, en fait c'est l'autre qui m'invite à voir qu'il est dans le bonheur. C'est ce que je disais tout à l'heure, que en citant, vous rêvez d'exil alors que vous êtes en sécurité à la maison. Donc mon frère ou ma sœur est en sécurité, il est dans la joie. Mais il a oublié, donc il s'imagine être dans la souffrance. Alors bien sûr, cette propension à partager, elle est tout à fait juste ici. Et donc, de plus en plus, on ressent les uns les autres le nouveau qui arrive, la nouvelle Jérusalem. Donc des guérisons, des miracles, on voit des relations qui se renouent dans un amour incroyable. On voit des conflits qui se terminent, des problèmes qui sont résolus, des guérisons physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, à tout niveau. Bien sûr, et on se réjouit. Mais en fait, le processus s'accélère parce que de plus en plus, on le laisse faire. Bien sûr, en écoutant notre guidance et en étant acteur, mais en lâcher prise. C'est-à-dire détaché de ce qui se passe. Mon frère a choisi cela, il a choisi son chemin parfaitement. Et s'il décide de rester, disons, dans les croyances du monde, en s'occupant de sa BMW, de son compte en banque et tout ça, et rien d'autre, c'est son chemin. Mais ça, c'est son rêve, c'est tout. Mais moi aussi, j'ai mon rêve. Mais le fait d'accueillir le rêve des autres, eh bien, c'est là que je peux les aider. C'est-à-dire, je sais que c'est un rêve. Et je ne donne plus une réalité au rêve de l'autre. Le cours en miracle, pour ça, dit, c'est comme un enfant qui fait un cauchemar à côté de vous, dans son berceau. Eh bien, vous êtes là, mais vous ne le réveillez pas pour lui faire une théorie, pour lui expliquer, non, vous le cajolez, vous attendez tranquillement qu'il se réveille, et éventuellement vous l'aidez. Enfin, c'est moi qui rajoute comme ça, c'est pas dit exactement comme ça dans le cours, mais on est tout en amour, tout en compassion, en compréhension, que l'enfant fait un cauchemar. Donc c'est un cauchemar, c'est pas réel. Donc il semble souffrir, il est en sueur, il n'est pas bien, il pleure. Alors on le cajole, on le prend contre soi, on lui chante éventuellement une chanson, on le masse un peu, etc. On l'aime dans son cauchemar, mais on sait que c'est un cauchemar, on sait que c'est un rêve. Il va très bien, l'enfant. L'enfant va très bien. L'enfant que nous sommes tous, les 7 milliards que nous sommes, eh bien, cet enfant-là va très bien. Il s'imagine, elle est très mal, d'accord, c'est pas nié, mais il va très bien. Très bien. Dieu est tout ce qui est. C'est là que, effectivement, on est dans un chemin personnel. On s'occupe de nous-mêmes. On travaille que sur nous-mêmes. Et un thérapeute, disons, qui comprend ça, sait très bien qu'il ne travaille que sur lui-même. Apparemment, il semble être thérapeute, d'accord. Il est utilisé pour ça. Mais tous ses patients sont des cadeaux pour lui-même. Et on peut dire qu'on est tous thérapeutes-patients les uns pour les autres, bien sûr. C'est très simple. C'est très très simple. Ça n'est qu'un jeu de libération mutuelle. Toutes nos relations n'ont qu'un but de nous libérer, de nous faire retrouver qui nous sommes. Qui nous sommes déjà. Donc, qui est déjà l'autre? Lumière et rien d'autre. Pure lumière.
À nouveau dans « Et l'univers disparaîtra », une phrase qui parle de pardon et qui dit « Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu sais que c'est vrai. » Et donc c'est une attitude qui facilite le pardon, hein, de penser que ce n'est pas ma maison ici, c'est un théâtre d'expérience que j'ai fabriqué dans des buts bien précis, mais c'est pas chez moi. Et puis un peu plus loin, il cite une phrase de Jésus dans Un cours en miracles, qui dit « Rends cette année différente en faisant que tout soit pareil ». Dès que je pardonne, tout est pareil, c'est-à-dire c'est toujours l'amour. Tout le temps. Et j'aime bien cette phrase. Je peux choisir de rendre mon quotidien différent en faisant que tout soit pareil. C'est-à-dire que je peux me rappeler de la neutralité des choses, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais ou de bien ou de mal. C'est uniformément pareil. Et puis tout à l'heure, Christophe, quand tu parlais de l'énergie de vie, le pétillement à l'intérieur, vraiment j'étais connecté à ça. Sous la forme du désir. Hein. Et pour moi, le désir est en effet une impulsion de vie. Et Jésus le disait dans la voie de la maîtrise, en disant que tout est désir. Il n'y a rien qui ne soit pas né d'un désir. Et ce désir, c'est une impulsion vivante. Si je me lève de mon lit le matin, je suis dans ce désir de vivre cette journée. Sinon, je resterai dans mon lit, qui serait aussi le désir de rester dans mon lit. Si je mange, j'ai le désir de manger. Et pour moi, ce désir est divin parce que la création, c'est étendre ce qui est en impulsant plus de ce qui est. Et ça s'impulse, pour moi, avec le désir. Et donc, ce pétillement à l'intérieur, cet appel à m'éveiller, c'est aussi ma nature divine. C'est aussi ce qui me pousse à avancer, à évoluer dans la vie. J'ai le désir de me connaître moi-même, de revenir à la maison. Et après, je me suis dit, ça, c'est pas pour rien que j'ai trouvé le tantra comme voie qui explore bien le désir. Pas seulement le désir sexuel, tous les désirs. Chaque désir, en fait. Et Jésus dit aussi que ce qui donne à la rose sa couleur rose, c'est le désir qui monte, qui fait monter la sève dans la tige et amène les couleurs aux pétales. Qu'elle aussi, elle est mue par ce désir, ce pétillement. C'est ce qui fait que notre, voilà, notre sang circule et tout, tout est impulsion de vie. C'est quand même assez puissant, hein, même si tout ça est imaginé, c'est quand même imaginé avec le désir puissant de faire cette expérience imaginée. Ce rêve avec des détails, une complexité exceptionnelle, extraordinaire. Il y avait un reportage sur le corps humain et les statistiques du corps, mais il parlait du nombre de battements de cœur dans une vie, mais c'est incroyable. Et il y a des cellules dans l'embryon qui commencent à battre spontanément, alors qu'il n'y a même pas encore de vaisseau sanguin. Mais moi, ça me sidère. Ça bat, voilà, c'est sa nature de battre, et alors elle bat. C'est même pas un cœur, c'est une cellule. Et ces cellules s'agrègent, se mettent ensemble, commencent à constituer un cœur, mais ça continue de battre tout le temps. Et ça bat jusqu'au dernier moment. Ce n'est pas le cerveau qui fait battre le cœur. Le cœur bat spontanément, de lui-même. Par ce désir d'être dans cette expérience vivante. Donc c'est une aide précieuse de me rappeler que ce désir-là est divin. Ce désir-là me sauve d'une certaine manière de cette réalité, de ce niveau de réalité qui souvent me plombe. Lorsque je suis pas connecté au désir d'évoluer, je sombre dans la dépression. Hein. Je vois où ça me mène, je vois comment ça peut me plomber. Et lorsque je me rappelle de ce désir d'évoluer, tout d'un coup, la lumière apparaît. Et c'est ça qui... Et je suis... J'ai une intuition forte de dire que le désir, c'est Dieu qui passe incognito dans notre corps, hein, qui s'immisce dans l'expérience de la dualité à travers, trouve à travers ce désir les expériences que tu veux, trouve-les juste pour te rappeler du chemin de la maison. Et ce désir t'est impulsé de nouveau, et impulsé de nouveau, et impulsé de nouveau. En permanence impulsé. Et plus j'écoute ces impulsions, et plus je deviens vivant. Et plus je deviens vivant, et plus j'ai envie d'être moi-même, de me connecter à mon essence, d'évoluer. Et puis, il y a ce désir d'aider par, comme tu dis, Christophe, par le rayonnement de qui je suis. C'est parce que je suis qui je suis que cette vérité touche les autres, parce que cette vérité, ils l'ont aussi en eux. Donc, c'est pas possible de ne pas raisonner à cet appel que j'ai en moi. Mais toi qui le manifestes, tu me rappelles que je l'ai. Donc oui, on peut aider, mais en effet, pas directement. Simplement en agissant avec ce désir d'évoluer. En agissant, en incarnant l'appel à aimer toujours plus. Et donc, l'appel à aimer, c'est la manifestation de qui je suis en vérité. Ce désir-là, C'est pour ça qu'il est si important. C'est pour ça que sans désir, il n'y a pas de vie. De vie sur Terre. Hein. Et puis, au niveau de perception de l'unité, mais le désir de Dieu, c'est d'être toujours plus. C'est pas d'être statique, c'est de s'étendre à l'infini, comme l'océan projette ses vagues, comme le soleil projette ses rayons. Ben c'est toujours le soleil. Hein. On est un des rayons du soleil. Et ces rayons ben, s'éloignent, portent la lumière de plus en plus loin. Sans fin, il n'y a pas de fin à ça. C'est ça qui est magnifique. Mais sans le désir, il n'y a pas de rayon de soleil. Il n'y a que le soleil. Le rayon, c'est laisser rayonner l'amour pour faire encore plus d'amour. Et c'est entre autres notre tâche. Hein, notre tâche d'humain, c'est manifester encore plus d'amour que ce qu'il y avait pour étendre tout le temps la portée de l'amour divin. Et l'outil que nous avons, c'est le désir. Et ce désir, il est partie intégrante de la vie, mais pas de la vie humaine, de la seule vie qui soit, qui ne commence pas et ne s'arrête pas, qui est éternelle et qui est sans fin, qui se perpétue d'elle-même et qui a pour seul but de s'étendre elle-même en permanence. Donc c'est comme une histoire, un conte de fées qui serait toujours dans l'épisode final. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que c'est le bonheur en permanence et c'est l'extension en permanence. Hein. C'est ça, en fait l'unité, c'est ça. C'est il n'y a que Dieu, mais il y a toujours plus de Dieu. Plus de Dieu à travers ce désir de s'étendre. Et s'il y a bien quelque chose dans ma vie humaine qui peut m'aider, c'est de me centrer sur mon désir. Tiens, de quoi j'ai envie maintenant ? Hein ? Et puis dans cette étincelle-là, je trouve la lumière, je trouve ma lumière, et puis je trouve quelque chose qui me fait grandir, qui me fait avoir le sentiment de grandir. Parce qu'en effet, le désir, c'est ça. C'est être plus de ce que je suis déjà, que ce que je suis déjà. Alors quand ça passe par le désir sexuel, ben c'est la même chose. Parce qu'en vérité, le désir sexuel, c'est aussi, je veux grandir sur cette terre, me perpétuer, faire des enfants qui sont un prolongement de moi-même, à une échelle beaucoup plus limitée, c'est aussi le but de l'unité. Même si c'est tout à fait imaginaire. Pour moi, dans la pièce de théâtre, le désir est un rayon de lumière qui n'est pas imaginaire du tout. Je le dis comme ça me vient, hein, je ne sais pas, j'affirme pas la vérité de ça, c'est ma vérité maintenant. Le désir est le rayon de lumière qui illumine la présence divine, qui incarne, qui insuffle la présence divine dans la pièce de théâtre, qui fait que je peux jamais me séparer de cet aspect divin tant que je suis vivant sur cette terre. Et c'est de la plus haute importance pour moi de rester connecté au pétillement. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui élève mes vibrations? C'est le désir. Hein, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Questionner mon désir. Hein. Questionner mon désir, c'est se rappeler d'où je viens, c'est se rappeler de ma maison, c'est ne pas rester avec les apparences, mais être connecté à la vérité. Et que j'allume les projecteurs dans la pièce de théâtre, et tout d'un coup, je vois le décor en carton-pâte, et je vois tous les accessoires pour ce qu'ils sont. Mais la lumière que j'amène, c'est la vraie lumière. C'est la lumière qui ne m'a jamais quitté, qui a toujours été là, qui m'a accompagné à chaque seconde, même si moi, j'avais la tentation de l'obscurcir la tentation de la mettre de côté pour vivre cette expérience de noirceur.
À propos de la pièce de théâtre, on a de plus en plus les uns les autres, et on entend parler d'expériences, de communication avec des êtres chers qui sont partis. Et si vous observez bien, et je dis souvent que moi j'apprends énormément par ce qu'il n'y a pas dans les messages et par ce qu'il n'y a pas dans ce genre d'informations. Et si vous observez bien, vous verrez que quand un être a quitté ce plan, mais qui communique avec des êtres qui sont restés ici, et s'il y a des relations extrêmement difficiles, violentes, avec des, par exemple, des pères qui ont eu des difficultés avec leurs enfants, avec leurs filles, leurs fils, etc., ou des difficultés de couple très fortes, eh bien, quand il y a communication, il n'y a jamais, jamais de rancœur, il n'y a jamais de jugement, il y a toujours un appel à l'amour. Et ça peut nous aider les uns les autres, parce qu'on a tous connu ça. Et quand on pense à un être, on dit « Ah, j'aurais voulu lui parler, j'aurais voulu lui dire que finalement je lui pardonne vraiment, qu'il a fait ce qu'il a pu. » Eh bien, on peut le faire, parce qu'on peut vraiment savoir que l'autre être qui est de l'autre côté, en fait, est tout à fait présent. Et il est complètement dans l'amour. Il n'a aucune amertume, aucune rancœur, parce qu'il a une autre vision. Dans l'incarnation, c'est fait exprès qu'on est piégé comme ça dans cette illusion de séparation, de manque, et donc nos relations servent à nous libérer pour retrouver vraiment qui on est. Mais quand on sort de l'autre côté, bien sûr, il y a encore l'ego. Mais il y a une neutralité. Et d'ailleurs, si on regarde bien, ces êtres qui nous parlent nous invitent toujours à aimer. Écoutez, la seule chose que vous ayez à faire, c'est aimez-vous les uns les autres, aimez. Ne faites que ça. Donc, pourquoi est-ce que je suis guidé un peu à parler de ça maintenant, brièvement? C'est parce que ça peut nous aider dans des relations dont on a l'impression que ces relations n'ont pas été finies, elles n'ont pas été bouclées, qu'il y aurait quelque chose à faire. Eh bien, c'est fini, on le fait maintenant. Et on peut vraiment leur parler et dire « Tu m'écoutes, tu m'en as voulu beaucoup, je t'en ai voulu, etc. C'est fini, terminé. » Ça n'a pas été réel, c'est pas réel. Je sais que là où tu es, tout ce que tu vois, c'est de l'amour. C'est comme ça. Eh bien, je m'ouvre à ça. Et je te remercie pour ton rôle parfait. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est pas 99%, c'est 100%. Il n'y a jamais d'exception. Il ne peut pas y en avoir. C'est impossible.
C'est drôle que tu évoques ce sujet-là maintenant, parce que justement, j'ai fait un rêve d'une personne défunte de ma famille il y a quelques jours. Et c'était une personne avec qui je n'étais pas spécialement en conflit, mais il était toujours un peu en désaccord avec moi, parce que j'avais choisi dans ma vie quelqu'un qui n'était pas de la même religion que lui. Donc, quand il est parti, c'était resté un petit point qui n'était pas réglé. Et il y a quelques jours, j'ai rêvé de lui, et c'est vrai que il m'a pas dit un mot, il n'y avait pas une parole, mais un regard. Et un tel amour dans cet échange, ce regard et ce sourire, il irradiait. Et là, j'ai compris qu'il n'y avait que de l'amour, quoi. C'était que de l'amour. Alors c'est pour ça, voilà, ça me parle.
Voilà, avec un petit peu d'avance, je sens de clôturer ce groupe maintenant. Voilà, dans la présence de tout ce qui a été invoqué aujourd'hui, cette descente de l'esprit dans la matière que je sens de plus en plus à l'œuvre, comme s'il y avait une perméabilité de plus en plus à ce qui est vrai, et donc ce qui est vrai arrive à la fois dans la matière et dans ma vie, parce que les croyances que les choses sont séparées peuvent se dissoudre de plus en plus, peuvent se relâcher de plus en plus. Et un mot que j'aime beaucoup, c'est persister. Persister est différent de insister. Dans insister, il y a une notion de volonté, alors que persister, je poursuis, je sais quel est mon but et je continue. Je mets ma bonne volonté, et non pas ma volonté. C'est-à-dire, je sais quelle est ma direction et je persiste à la suivre. Et notre rôle, c'est aussi d'accueillir cet esprit, ce ciel, dans la matière, sur cette terre, et dans notre corps. Et aujourd'hui est un jour symbolique aussi pour le faire. Et lorsque cet esprit, cette lumière descend en nous, dans le corps, dans la matière, alors nous pouvons nous sentir un peu moins isolés, un peu moins séparés, un peu plus unis les uns aux autres, et cela peut nous encourager à agir ainsi dans nos vies. Voilà. Donc la semaine prochaine, pour cause de pleine lune, le lundi 4, il n'y aura pas de réunion, mais celle-ci aura lieu le mardi 5 juin. À la suite de cette célébration, le lendemain de cette célébration. Voilà, dans la joie de ce prochain partage, je fais sonner le gong et la fin du groupe. À tout bientôt.